With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
We just have too much stuff that's being produced.
Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Outils tech, conseils de marques engagées ou en transformation, partage d'expertise, ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider l'industrie vers un développement durable. Je vous donne rendez-vous tous les 10 jours sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous abonner à la chaîne présente le double avantage d'être notifié à la sortie d'un épisode et de nous soutenir en un seul clic. Nous avons également une newsletter business mensuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire sur thegoodgoods.fr. Bonne écoute! La première rencontre entre The Good Goods et Première Vision, c'était il y a 5 ans. Nous étions au début de l'aventure, un micromédia, une minuscule communauté, publiant quelques articles longs et complexes sur la thématique du développement durable dans la mode. Elle intéressait à l'époque une poignée de convaincus et attirait ceux dont le métier est notamment de capter la tendance, les signes faibles qui façonnent le monde de demain. L'équipe de Gilles Lasbord, notre invité du jour, nous a fait confiance et a suivi son intuition. Celle de déployer une offre de sourcing textile éco-responsable comme la mue essentielle à la pérennité de toute l'industrie. Parce que la mode commence par la matière. Une main, une couleur, une texture, des caractéristiques techniques, mais aussi un impact. D'après une étude Sense Insight, 95% des émissions totales d'une entreprise de mode sont incluses dans le scope 3, c'est-à-dire toutes les indirectes, principalement en amont dans la chaîne de valeur. Le textile semble être un levier efficace pour réduire l'empreinte carbone de la mode en conservant le désir de créer ce qui nous habille. Depuis les prémices de Smart Création, espace exposant dédié aux conférences et au sourcing durable, Première Vision déploie et solidifie son offre dans un exercice de réinvention. Parcours, signalétique, service, hub innovation, A Better Way est à découvrir du 3 au 5 juillet lors de la prochaine édition de Première Vision Paris et en avant-première dans cet épisode d'Onward Fashion. Bonne écoute!
Merci beaucoup Gilles, alors déjà bienvenue.
Bonjour Victoire, merci de m'avoir invité.
Avec grand plaisir, on était en train de parler de la partie présentation et donc faut-il ou pas se raconter ou présenter l'entreprise au sujet de laquelle on vient parler, à savoir Première Vision aujourd'hui. Les deux m'intéressent un petit peu parce que pour mettre un minimum de contexte, on vient de passer quelques minutes à regarder divers tissus, tous plus incroyables les uns que les autres, et assortis d'un vocabulaire très riche pour les décrire. On a parlé de la main, on a parlé du tannage, on a parlé des propriétés techniques des matières, et je sais que vous n'êtes pas le fondateur, tu n'es pas le fondateur de Première Vision, et que donc nécessairement dans son parcours, il y a eu une formation, une montée en compétences sur les sujets textiles. Donc sans refaire l'intégralité du background, je veux bien, Gilles, que tu te présentes et que tu me mettes un petit peu d'historique.
Donc encore merci de m'avoir invité, Victoire. J'ai rejoint moi Première Vision en 2004. À l'époque, c'était pour reprendre la direction du salon Expofil, que certains ont connu, le salon des fils et des fibres. Et aujourd'hui, donc, je suis directeur général de Première Vision depuis 2013. Le textile, moi, je le connais parce que ma famille était dans le textile, en fait. Et si je suis, j'ai fait une école de commerce et puis j'étais à l'Institut français de la mode. Et je suis allé à l'Institut français de la mode pour me former et pour me préparer à rentrer dans l'entreprise familiale. Les choses se sont pas passées comme ça. J'ai travaillé pendant un temps dans l'entreprise.
C'était quoi comme entreprise?
Alors, c'était une entreprise de textile laineier dans la région toulousaine, dans le Tarn précisément, qui est un bassin laineier en France. Je dirais plutôt qu'il l'était, puisque malheureusement, il reste très peu d'entreprises encore dans cette région. Et donc, c'était une entreprise textile, on disait intégrée ou verticalisée à l'époque. C'est-à-dire qu'on partait de la laine, et donc on avait une filature, un tissage, teinture, après finition. Tout ça dans la même entité, sur plusieurs sites de production. Et donc, voilà, moi, j'étais la cinquième génération de la famille. J'y ai travaillé pendant 3 ans, et la famille a voulu sortir. L'entreprise connaissait des difficultés. Mais ça a été, je dirais, mon premier point de contact réel avec Première Vision. Puisqu'à cette époque, moi, j'étais exposant de Première Vision. Enfin, l'entreprise hein, était exposant à Première Vision. Mais je baignais déjà depuis toujours dans cette filière textile. Alors, plus particulièrement la laine, hein, qui est, on va dire, une branche différente de la branche cotonnière ou des imprimeurs ou de la soierie ou autre. Et évidemment, petit à petit, chez Première Vision, j'ai découvert les autres aspects industriels et produits de l'industrie textile.
Donc, grand écart quand même, parce qu'en plus, la laine française, c'est une laine particulière et les applications textiles sont pas aussi variées que des laines d'autres régions. C'était quoi les débouchés des tissus que vous produisiez, enfin des tricots que vous produisiez?
Alors, si en effet, peut-être tu fais référence à des discussions que tu as pu avoir avec Damien Pommeret de la Woolmark,
ou
à Pascal Gautran de Tricolore, hein, tous ces gens qu'on connaît qu'on apprécie énormément. Dans l'entreprise, nous, et dans la plupart des entreprises lainières françaises, textiles, on utilise de la laine d'Australie très largement. Parce que c'est là qu'on trouvait les laines les plus fines. C'est là aussi qu'on trouve des fibres longues et surtout avec une constante de qualité très importante. Donc, c'est vrai que l'Australie est très importante dans le métier de la laine, mais il y a aussi la Nouvelle-Zélande. Il y en avait aussi en Argentine, etc. Donc, nous, à l'époque, on achetait des matières, on va dire, et aussi d'Afrique du Sud, de ces trois provenances-là, très, très peu de laine française, qui, comme tu sais, a un débouché essentiellement pour l'industrie agroalimentaire. C'est de la viande, et voilà. Donc, même si il y a un process en cours qui essaie d'améliorer, de changer les choses, et qui est très bien, à cette époque, on n'était pas dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on faisait du tissu qui servait essentiellement à faire du manteau, mais qui pouvait aussi faire du tailleur, donc avec des poids, on va dire de veste à manteau.
Très bien. Et effectivement, je mettrai les deux épisodes dans les notes de celui-ci, mais on a reçu Pascal pour parler de Tricolore il y a 3 ans, et Damien il y a quelques mois pour parler de la Woolmark. Ok, donc 2013, à quoi ressemble Première Vision? Et peut-être avant ça, est-ce qu'on peut redéfinir Première Vision et faire un bref historique du groupe?
Bien sûr. Alors, Première Vision a été créée en 1973, donc ça va faire 50 ans maintenant que ce salon existe. Il a été monté à l'initiative d'un monsieur qui s'appelle Bertrand Dupasquier, qui à l'époque est le délégué général de la Fédération Textile dans la région de Lyon. Et en fait, il va voir son président, Robert Brochier, et ils se disent... Il faut qu'on monte un événement pour accueillir ensemble, nous, industriels de la région de Lyon, nos acheteurs qui recherchent des tissus. Alors, on est essentiellement sur une région où il y a des soieries et aspects soieries. Et c'est comme ça que naît Première Vision à cette époque. Rapidement, Première Vision s'installe à Paris et ensuite se développe par, je dirais, des séquences successives d'ouverture. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'industrie des soyeux viennent se rajouter progressivement les autres filières industrielles du textile française, donc les lainiers, les cotonniers, les imprimeurs, etc. Puis ensuite, une fois que le plein a été fait, si je puis dire, en France, il y a des séquences d'ouverture nationales. Donc, Première Vision est un salon français, puis tout d'un coup, il s'ouvre et il accueille les Belges et les Britanniques. L'Europe du Nord, plutôt, d'abord.
Donc, en exposant et en visiteur.
On parle d'exposants et les visiteurs, c'est ouvert, on va dire. Et puis ensuite, Première Vision est courageux et il accepte les industriels de l'Europe du Sud, à l'époque, les principaux concurrents des Français. Donc, ce sont les Italiens, les Espagnols, les Portugais. Et le salon, comme ça... grossit et grandit. En réalité, en même temps, il y a le salon leader, il est en Allemagne, il s'appelle Interstoff. Mais Première Vision décide de faire les choses autrement que Interstoff et introduit très rapidement dans son ADN deux éléments qui sont vraiment fondateurs et qui existent toujours à Première Vision. C'est un, la sélection, C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas rentrer à première vision. Donc, il y a différents critères, il y a des process pour pouvoir être exposé. On essaie, à première vision, de présenter le meilleur de l'offre. Et le deuxième élément fondateur, c'est de parler de mode et de dire on est dans un salon dans lequel on va aider les acheteurs à distinguer les meilleurs produits, être le plus dans la tendance. Donc au début, ça se traduit comment ? Par faire une gamme de couleurs, avoir des coordinations sur des présentations de produits, etc. C'est le début des forums. Et tout ça, aujourd'hui, ça perdure. En 2001, Première Vision continue ses cercles d'ouverture et décide de plus être un salon européen, mais d'être un salon international. Et donc s'ouvre à l'industrie textile internationale. Et là, arrive sur Première Vision les premiers tisseurs japonais. Je t'ai montré un tissu extraordinaire de Nikkei, qui est un de nos exposants japonais. Et puis, donc les Japonais, les Coréens, les entreprises turques, les meilleures, commencent à arriver. Quelques Chinois arriveront plus tard. Et le salon se mondialise. Ensuite, pardon, je suis un peu long, mais c'est 50 ans hein.
On a tout le temps, au contraire. Moi, je veux qu'on soit une immersion dans l'histoire pour commencer et savoir où on va. Ça me semble essentiel.
Ensuite, donc, à partir de 2004, il y a un changement qui s'opère. D'abord, il y a un changement dans l'équipe, puisque Première Vision fusionne avec Expofil, qui est salon des filets fibres. Et Philippe Pasquet arrive et prend la direction générale de l'ensemble et il deviendra président quelques années après. Et là, le tournant consiste à en fait rassembler autour de Première Vision, qui est un salon exclusivement textile, donc on voit que du tissu sur Première Vision jusque-là, dans toute sa diversité et dans toute sa richesse, mais que du tissu. Et d'ouvrir donc Première Vision aux autres métiers. Et c'est une politique qui se fait essentiellement par acquisition, qui dure une dizaine d'années, qui s'opère entre 2004 et 2014, pendant lesquelles les autres métiers qui sont aujourd'hui au sein de Première Vision Paris, donc les filets, les fibres, les accessoires, et les composants, les dessins textiles, la confection à façon et le cuir, vont progressivement rejoindre Première Vision, à l'intérieur, si je puis dire, dans l'équipe organisatrice, et qui fait que Première Vision s'installe non plus comme un salon seulement du textile, mais comme un hub pour l'ensemble des matières et permettre donc aux acheteurs, dont on constate en même temps que les marques de mode deviennent totalement transversales. Avant, on avait des marques qui pouvaient être plus spécialisées. Je suis moi maroquinier, ou je fais des chaussures, ou je suis dans le prêt-à-porter. Aujourd'hui, on est sur une approche de marque globale. Et permettre donc aux acheteurs qui travaillent sur les différentes typologies de produits de venir ensemble et d'avoir une coordination entre elles et d'avoir sur un même lieu l'ensemble des produits dont elles peuvent avoir besoin pour développer leur collection.
C'est étonnant parce qu'on va parler de l'évolution de Première Vision Paris, évidemment, à venir et particulièrement sur l'édition de juillet. Mais on a la sensation que l'offre et le déploiement de PV Paris se fait en parallèle de l'expansion de la mode globalisée, en fait, hein, de ces marques qui produisent aussi bien des vêtements que des accessoires, que des chaussures de la maroquinerie, et puis de cette internationalisation à la fois du sourcing et puis de la production et des espaces de vente. Et aujourd'hui, sans spoiler, mais il y a une logique un petit peu inverse avec une restructuration et notamment une fragmentation géographique de l'offre sur le salon, un peu plus de local peut-être, enfin un retour à des choses plus en circuit court et plus essentialisées par espace dédié au visitorat. Alors, on va voir si j'ai une bonne intuition ou pas, mais c'est un peu la façon dont je le perçois. Je ne sais pas si tu veux déjà commenter ça.
Bah, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un ingrédient ou une donnée nouvelle qui est rentrée dans le sujet, c'est l'éco-responsabilité. Mm-hmm. On aura l'occasion d'en parler, la loi AGEC, le PEF, tout ce qui est en préparation au sein de l'Union européenne. La crise du Covid aussi, hein, certainement, qui a montré les limites ou les difficultés d'une production lointaine. Pour certaines entreprises, c'est aussi des questions de time to market. De voir est-ce qu'on veut rallonger le time to market ou au contraire le raccourcir pour être on va dire pour réduire peut-être des risques qui pourraient être pris par les entreprises. Donc tout ça, mis bout à bout, c'est vrai, change un petit peu la donne de la supply chain et de l'approche des marques dans leur sourcing de matières.
Et alors justement, tu parlais de collection à l'instant, c'est assez intéressant parce que ça, il y a eu peut-être un virage en particulier depuis la pandémie et cette conscience écologique accrue chez les acheteurs, les producteurs et chez les clients finaux. Et de fait, je pense que le rôle du salon a aussi intrinsèquement évolué. Aujourd'hui, on crée plus les collections comme on le faisait il y a 10 ans avec 2 ans d'avance sur les saisons, des cahiers tendances, etc. Donc le salon a dû s'adapter. Comment est-ce que tu synthétiserais le rôle d'un salon textile international aujourd'hui en 2022 dans le rythme actuel de la création de mode?
Alors le sujet des rythmes de collection est un gros sujet, en effet. Nous, on a souvent travaillé avec l'Institut français de la mode. On a fait beaucoup d'études pour essayer de monitorer la situation, de voir comment les évolutions se produisaient, quelles étaient les stratégies des marques, vers quoi elles allaient, etc. Aujourd'hui, force est de constater que, alors à l'échelle de première vision, c'est-à-dire avec un regard relativement mondialisé sur la situation, ou à la limite Europe plus US plus Japon Corée, enfin sur les pays qui sont les bassins importants pour nous, on voit qu'on a des process très hétérogènes en termes de rythme de collection. Ce qui est sûr, c'est que les collections sont plus fractionnées, que le rythme s'est amplifié. Mais que aujourd'hui, peut-être que certaines excès se réduisent et que mais que pour autant, on est sur un process de collectionning fractionné. Et moi, d'ailleurs, je le critique pas, ce process de collection fractionné. C'est-à-dire que bien au contraire, je pense que c'est plus safe. Pardon de le dire comme ça, mais c'est plus safe pour une marque de mode d'avoir 4 collections que d'en avoir 2. Parce que si tu en loupes une, tu n'es pas bien, et si tu en loupes 2, c'est la fin de l'entreprise. Donc, en termes de risque pour une entreprise de mode, répartir ces risques sur 4 collections, moi, me semble être plus pertinent que le répartir sur 2. Ça ne veut pas dire que, pour autant, il faut aller chercher loin la production, ça ne veut pas dire que... Et que, évidemment, il y a certaines entreprises aujourd'hui qui sont dans des excès. Donc, quel rôle nous on joue un salon comme Première Vision dans tout ça? Le rôle de Première Vision, c'est de rassembler sa communauté vraiment, c'est-à-dire de faire se rencontrer les acteurs entre eux et autour d'un sujet qui est le sujet des développements de collections. Bien sûr, du côté des exposants, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à les aider à développer leur business. On cherche à ce qu'ils trouvent ou qu'ils fidélisent leurs clients actuels et qu'ils en trouvent de nouveaux. Et les acheteurs, aux acheteurs, on essaie de les guider. C'est pas le bon terme. Mais on essaie de leur donner des éléments d'information pour qu'ils aillent vers les meilleures entreprises. Mais surtout, et c'est pour ça que je t'ai amené des produits aujourd'hui, pour montrer comme quoi les matières qu'on présente, elles sont importantes dans un processus de collection. C'est-à-dire, c'est l'ingrédient de la marque de mode, le tissu, le cuir ou les composants qu'elles vont utiliser. Et que choisir cet ingrédient, en plus, dans la période qu'on connaît des co-responsabilités, d'attentes de consommateurs qui ont changé, il est d'autant plus stratégique. Parce que il détermine l'envie que le consommateur peut avoir par rapport à un produit, mais aussi, ils déterminent les choix de ta supply chain qui vont aller avec, et donc du storytelling que la marque de mode va pouvoir avoir, soit sur sa marque, soit sur son produit, et etc. Et que donc, il me semble, et je ne dis pas ça parce que je suis le directeur général de Première Vision, mais il me semble que plus que jamais, en fait, le textile est au cœur de ce sujet-là, de la supply chain, et de ce sujet-là qui est celui de l'éco-responsabilité. Et que dans cette période, c'est absolument important pour les acheteurs, alors qu'ils le fassent à Première Vision ou qu'ils le fassent ailleurs, on va dire, mais qui se parlent, qui trouvent des solutions, qui trouvent des améliorations, parce que devant nous arrive tout un tas de sujets, de réglementations, etc., qui vont avoir des impacts sur notre filière.
Absolument. On va revenir aux matières dans une seconde. Peut-être juste avant, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres aujourd'hui? Enfin, déjà, les noms des différents salons du groupe PV, parce qu'il y a PV Paris, qui est vraiment l'objet de ce podcast, mais il y a aussi une offre qui, depuis, s'est multipliée à différents endroits sur différentes thématiques, et aussi les communautés que tu as évoquées. Aujourd'hui, c'est qui le visiteurat, les audiences et les envergures de marque qui sont les clientes de Première Vision?
Alors, Première Vision, aujourd'hui, ce sont 11 salons par an. Donc, qui se décline en France et à l'étranger. Donc, le vaisseau amiral, c'est Première Vision Paris, parce que c'est le plus gros. Il y a 1300 exposants, il y a 40 000 acheteurs qui viennent sur 3 jours. Mais on a ensuite développé au fur et à mesure d'autres événements, soit pour aider notre communauté d'exposants à découvrir de nouveaux marchés, soit parce que Première Vision Paris répondait pas tout à fait à certaines spécificités de marché, d'un marché que tu sais bien, qui est complexe et qui est varié. Donc on est en présence aux États-Unis avec Première Vision New York depuis 2000, donc ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on est aux US. On a un salon dédié au marché du denim qui s'appelle Denim Première Vision, qui est un salon qui bouge, hein, puisqu'il se déplace. Donc là, il est au mois de mai à Berlin et il sera au mois de novembre à Milan. On a toujours sur les salons internationaux un salon dans le salon, on va l'appeler comme ça, à Shenzhen en Chine, qui s'appelle Première Vision Shenzhen. Et puis des salons ensuite sont plus des salons de spécialité, appelons-les ainsi. Donc Made in France Première Vision, au Carreau du Temple, on a essentiellement des confectionneurs français et Blossom Première Vision qui se tient, qui est donc dédié aux marques de luxe, aux pré-collections des marques de luxe et qui se tient, en avant de Première Vision à Paris. Voilà. Donc notre communauté physique, la plus grosse, c'est celle qu'on a à Première Vision Paris, donc les 40 000 visiteurs. C'est très international. L'offre est très internationale, mais le visitorat, surtout, est très international, puisque 75% de notre visitorat est étranger. Et que c'est des chiffres qu'aucun autre salon en France ne connaît. Et en particulier, on a un gros visitorat extra-européen, donc qui peut être américain, brésilien, japonais, coréen, chinois, qui viennent donc sur Première Vision Paris. Et puis on a une audience digitale aussi, au travers de notre plateforme. C'est 4,5 millions de pages vues par an. Le site internet de Première Vision, on a 90 000 followers sur Facebook, 90 000 sur Instagram, 20 000 je crois sur LinkedIn. Donc c'est une audience relativement large, extrêmement internationale. C'est que du B2B et les marques de mode qui nous suivent, qui viennent sur nos opérations. On va dire que ça commence avec Zara et ça va jusque les plus grands groupes de luxe. Mais on a globalement un positionnement sur le milieu et une offre qui correspond mieux au milieu de gamme jusque au très haut. Et ce, donc, à une échelle internationale. Les gens qui viennent sur le salon, c'est différents profils. Bien sûr, le cœur du profil, ce sont toutes les équipes qui sont en charge du processus de développement produit. Alors, quand on est dans une maison de luxe, c'est plutôt le studio. Mais quand on est dans une maison de diffusion qui est organisée un petit peu différemment, ça peut être plutôt les chefs de produit, les chefs de groupe, les stylistes. Donc, on a les gens en charge du développement produit, mais on a aussi des gens qui sont en charge des services de production et qui rencontrent leurs fournisseurs. Donc, ce sont les deux grandes grosses familles de nos visiteurs. Et bien sûr, est apparu au fil des ans, plutôt dans les plus grandes entreprises, des personnes en charge de l'éco-responsabilité et qui viennent aussi regarder, aider, accompagner les entreprises de mode dans leur transformation et éco-responsable. Et évidemment, donc, s'intéresse au sujet de la supply chain, des matières qui sont utilisées et des process de production.
Et côté visitorat, est-ce que tu penses que c'est un salon qui est adapté à tout type de marque et tout type de créateur, notamment si on est jeune créateur et qu'on lance sa marque et pas seulement les grands groupes, parce qu'il y a une limitation au volume, par exemple, sur les commandes?
Alors, c'est pas tant que Première Vision serait pas adaptée aux jeunes créateurs, parce qu'il l'est, voilà, et l'offre est suffisamment large pour que les jeunes créateurs puissent y aller, que plutôt la problématique industrielle, qui est souvent la contrainte qui est posée par les entreprises, nos exposants, aux jeunes créateurs. Ce marché, ce métier ne stocke plus, pratiquement. C'est-à-dire, il fut une époque où les tisseurs avaient des stocks et pouvaient assez facilement livrer des commandes sans avoir à lancer des productions. Sous les effets, alors on va appeler ça de bonne gestion, les stocks ont disparu et c'est essentiellement un métier qui, dans lequel la production se fait à la commande. Et donc, il y a selon les typologies de produits qui sont recherchés, les contraintes industrielles génèrent des minimums de quantité, alors que ce soit dans la phase de tissage ou que ce soit dans des phases de teinture ou dans des phases de finition. Ce qui fait que pour les jeunes créateurs, malheureusement, c'est pas facile. Mais il y a des entreprises qui sont organisées pour pouvoir servir des petits volumes. Ce qu'il faut, c'est les identifier et ensuite aller les voir. Alors pour ça, nous, on a un petit dispositif sur le salon. Il y a un espace Young Designer qui est un accueil dans l'entrée du Hall 6 qu'on fait en partenariat avec Tranoï, puisque pour rappeler, Première Vision et Tranoï font partie du groupe GL Events. Et donc, on est partenaire. Ça, c'est le pôle mode de la division salon du groupe GL Events. Donc, moi, je pilote le pôle mode. Tranoï est dirigé par Boris Provost. Et donc, on collabore ensemble. Et donc là, il y a un espace qui peut accueillir les jeunes marques. Donc, je les invite à venir là. On peut les guider, leur donner de l'aide. Voilà, pour qu'ils trouvent les matières pour monter leur collection.
Il y a ça, et j'ai en tête aussi le sujet de l'accompagnement. On va voir sur le salon que vous mettez en place, et également dans Smart, il y a aussi tout un tas de jeunes boîtes tech qui font, alors certes plus de la production à la demande de la confection, mais en amont dans le textile aussi, qui s'adaptent à des petits volumes. Mais,
et puis il y a le sujet des dead stocks.
Pas plus vite que la musique, on y arrive. Est-ce qu'on peut donc commencer par l'offre, peut-être l'offre matière, et faire un panorama des grandes familles identifiées et de l'évolution du sourcing ces dernières années?
Oui, alors sur Première Vision Paris, vous avez la transversalité de l'offre. Donc on a 6 univers. Le premier, c'est les fils et les fibres. Que ce soit d'ailleurs un fil qu'on utilise pour faire un tissu ou un fil qu'on utilise pour faire un pull. Le tissu, qui est donc l'offre historique de Première Vision. Là, on est à plus de 600 exposants pour le salon de juillet. Les composants et les accessoires. Donc, ce sont tous les éléments qu'on va rajouter pour faire de l'embellishment ou du fonctionnel. Donc, ça peut être des zips, mais ça peut être des broderies, etc. C'est extrêmement divers. C'est l'ancien mode amont. Les dessins, Première Vision Designs, donc, ce sont des studios de dessin. Et eux, ce sont des studios qui font que de la création de motifs. Donc, ce sont des motifs qui vont servir à aller sur un tissu, essentiellement, et faire un imprimé exclusif, par exemple, et ce genre de choses. Il y a ensuite le cuir, et enfin, le manufacturing, qui est la confection à façon. Sur un salon de juillet, celui qui arrive, ce sont 1300 exposants. L'offre, elle est globalement, elle est mondiale, avec une représentation européenne très forte. Ou je dirais, si je prends la Méditerranée, voilà, une Europe élargie, c'est 80-85% de l'offre du salon. À l'intérieur du tissu, étant donné que c'est une offre très large, on a des univers, ou des secteurs plutôt. Ces secteurs produits, en fait, ils regroupent les entreprises pour faciliter la visite des acheteurs par typologie de produits ou par débouché de produits. Voilà, mm-hmm. C'est un mélange entre la technologie et le débouché. Donc vous avez le tailoring. Donc c'est pas forcément que de la laine, mais c'est pour faire plutôt voilà, des pièces structurées et aussi manteaux, la dentelle et la broderie, le sport intec, etc. C'est comme ça qu'on structure l'ensemble de l'offre. Enfin, est venu un dernier univers, si je puis dire, c'est l'univers Smart Création, qui est un univers dédié à l'éco-responsabilité et à l'innovation, mais qui n'est pas un univers homogène comme les autres. Il est homogène par son objectif ou par son sujet, mais après il est divers puisqu'on a des nouvelles matières, on a des entreprises de services, on a de la technologie, etc., qui se rassemblent à l'intérieur de cette bannière.
Comment est-ce que vous faites, en dehors des exposants historiques qui reviennent chaque année, pour renouveler donc l'offre aussi bien en termes esthétiques que surtout en termes d'innovation textile? Je m'interroge entre la part de lead entrant de nouveaux exposants et la part de prospection que réalise Première Vision entre chacune des éditions.
Alors on fait les deux, puisqu'on a une équipe qui est en charge de faire du développement et qui essaie d'identifier dans le monde entier les meilleures entreprises textiles pour essayer de les faire venir, pour leur proposer de venir sur le salon. Mais on a aussi évidemment beaucoup de demandes en 30 parce qu'on est connu, parce que c'est un salon historique. Donc on travaille vraiment les deux sujets, de la veille et en même temps répondre aux appels entrants. Mais après, le processus pour rentrer et devenir exposant sur le salon est un processus un petit peu particulier. Donc c'est, je dirais, une vente un petit peu particulière aussi, puisqu'on est un salon sélectif. Donc les entreprises qui souhaitent rentrer sur le salon, elles doivent présenter leur candidature à un comité de sélection. On a des comités de sélection pour chacun des grands métiers. Donc, c'est pas la même équipe qui audite ou qui vote pour les nouveaux entrants dans le tissu que dans le cuir ou dans l'accessoire ou dans le manufacturing. On a des spécialistes. Ces comités sont composés des équipes de Première Vision, mais surtout des gens de l'extérieur. Alors, ce sont des exposants et ce sont des acheteurs. Et on les réunit et on leur présente une entreprise, à la fois selon des éléments très objectifs de données qu'on collecte. Et c'est vrai qu'on est très exigeant, on demande beaucoup de choses aux entreprises. Il y a tout un dossier à remplir qui permet d'identifier le profil industriel de l'entreprise, le profil commercial de l'entreprise, l'innovation, ses démarches éco-responsables. Et puis, il y a les éléments produits. On nous envoie des collections. Voilà. Donc, on analyse les collections, on les met en regard aussi du profil de l'entreprise. Et ensuite, à l'occasion du comité, les entreprises sont présentées, le comité vote et les entreprises rentrent ou rentrent pas.
Mais du coup, donc, ce sont des critères mixtes, esthétiques, techniques, de durabilité, de qualité.
Oui, alors absolument. En fait, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est le profil. Donc le profil de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise, elle est capable de servir un marché très international et un marché sophistiqué, mm-hmm. compliqué. Ça, c'est le profil d'entreprise. Et dans ce profil d'entreprise, c'est sûr que nous, on privilégie plutôt les entreprises industrielles versus des entreprises qui ne seraient pas industrielles, bien que des entreprises, on va dire, qu'on appelle des converteurs, c'est-à-dire qui sont des donneurs d'ordre et qui travaillent avec des réseaux de fabricants. Il y en a, par exemple, beaucoup en Italie, et qu'elle travaille avec des sous-traitants italiens, et que c'est parce que c'est l'histoire industrielle de l'Italie qui est comme ça, et que c'est bien. Voilà. Donc on le regarde avec toutes ces complexités-là. Et de l'autre côté, il y a le profil produit. Et là, on regarde dans quelle mesure l'entreprise, il y a une logique de création derrière les collections qu'elle nous présente. Ce qu'on veut, c'est que toutes les saisons, l'entreprise renouvelle les produits qu'elle amène des nouvelles propositions sur le marché. Parce que la filière de la mode, alors pour ceux qui nous écouteraient et qui ne sont pas des professionnels, c'est important de rappeler que la filière de la mode, elle crée à toutes les étapes de son processus. Et qu'un filateur et quelqu'un qui va innover et créer des nouveaux produits, et de la même manière qu'un tisseur. Et évidemment, la marque de mode en dernier chef. Et elle assemble tout ça. Et nous, ce dont on a besoin, parce qu'on est positionné sur le marché de la mode créative, c'est d'avoir des industriels qui renouvellent leurs collections, qui innovent, qui font des nouvelles propositions pour faire en sorte que les marques de mode qui sont à la recherche de nouveaux produits trouvent des nouveautés.
Est-ce que vous avez noté ces dernières années notamment une évolution du flux à la fois de visiteurs et d'exposants ? Est-ce qu'il y a vraiment une transformation de l'offre, et notamment en faveur d'une éco-responsabilité, ou bien finalement ça reste quelque chose d'encore assez niche ?
Oui, on a noté une profonde évolution, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, en effet, on voyait les produits les plus éco-responsables, c'était des produits boring. Enfin, pardon, mais de le dire comme ça. Voilà, les couleurs n'étaient pas bonnes. C'était des produits très classiques, en fait, très classiques, très basiques, faits selon de bons critères en termes de matières premières, de process industriels, etc. Mais ça donnait un produit qui n'était pas très sexy. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on a des industriels qui se sont penchés sur cette question, qui ont travaillé sur leur approvisionnement de matières premières, sur leur process industriel. Et on a à la fois des produits qui sont plus éco-responsables, mais en même temps qui sont toujours créatifs. Pour autant, c'est un chemin qui est long de transformation. Et que Première Vision ne représente pas l'intégralité du secteur du textile. Nous, on a, comme je te le précisais, on a un biais qui est un positionnement déjà un peu plus haut de gamme que le reste du marché. D'ailleurs, on retrouve à Première Vision plus fortement des matières qui sont des matières premières haut de gamme, comme la laine, comme le cachemire, comme le lin, etc., en plus grande proportion qu'il n'existe sur le marché, hein, puisque le polyester, c'est 50%, 55% de part de marché fibre dans la mode. Mais c'est pas la représentation que ça a chez nous. Donc, évidemment, il y a déjà un biais qui est introduit dans la proposition Première Vision. Mais donc, on a vu, nous, nos entreprises, utiliser non plus du polyester, mais du polyester recyclé, avoir des laines responsables, avoir des laines recyclées, utiliser du coton bio, etc., etc. Et tout en étant créatif, parce que leur marché attend que les produits soient créatifs.
Et donc, quelque part, vous avez cette position prescriptrice et vous avez la capacité de jouer un rôle dans la limitation des matières d'origine pétrochimique, puisque c'est vous qui donnez un peu le ton de ce qui doit être sur le marché. Ou bien je fais de la prophétie autorisatrice, là.
On cherche pas à avoir de position politique par rapport à ça. Voilà. Alors, c'est sûr qu'on sait très bien que l'Europe est plutôt en faveur d'une fibre naturelle, alors que les États-Unis sont plutôt en faveur de matières, on va dire, à l'origine de pétrole, hein, donc plutôt les polyesters, les acryliques, etc. Nous, on va dire que, évidemment, on est plus aujourd'hui représentatif d'une offre de produits naturels qu'une offre de produits synthétiques. Ou je dirais artificiels, hein, c'est-à-dire les cellulosiques qui sont à base de bois ou autre. Pour autant, on joue pas de lobbying. Nous, ce qu'on cherche, et ça, c'est l'équipe mode de Première Vision qui est en charge de ça, c'est d'aider les acheteurs à trouver des produits magnifiques dans une offre énorme. C'est un travail énorme qui est accompli par l'équipe, qui consiste à recevoir, trier, sélectionner, mettre en scène l'offre des exposants de Première Vision sous un angle qui est à la fois un angle de tendance de mode, mais avec un prisme évidemment plus éco-responsable, plus engagé, parce que nous devons tous faire notre chemin pour transformer la filière.
C'est intéressant parce que tu dis on ne fait pas de politique, c'est vrai, mais l'accompagnement indirect à la transition vers aussi la transition des marques et leur mise en conformité au texte de loi qui arrive, on a mentionné le PEF au début, ça va forcément passer par vous puisque le sourcing et le choix de la matière est déterminant dans la note, en tout cas telle que l'affichage environnemental est conçu aujourd'hui, dans la note finale du produit. Donc quelque part, ouais, vous avez la possibilité d'orienter les marques vers les meilleurs choix pour accomplir des produits qui soient davantage éco-conçus.
Alors absolument. Nous, notre rôle, hein, c'est en effet de dire au marché que tout ça arrive. Qu'aujourd'hui, en France, on a la loi AGEC qui donne déjà un premier niveau d'affichage environnemental, que la loi AGEC, elle va certainement aller plus loin, et que donc le niveau de transparence et de sur la traçabilité va s'amplifier, mais que derrière, d'ici 2 à 4 ans, on ne sait pas bien, on va avoir les impacts des réglementations européennes qui arrivent. Moi, je crois que la mode va devenir un marché réglementé. On va voir exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est un marché qui est non réglementé. On fait ce qu'on veut. Il y a le REACH qui met des barrières sur les produits chimiques, etc. Mais globalement, les industriels font un petit peu ce qu'ils veulent dans le respect des législations nationales ou européennes. Mais on n'est pas réglementé au sens que ce qui existe dans d'autres marchés. On a eu à première vision pendant le salon le directeur général de Ratex qui est venu nous parler un petit peu de ce qui arrive, et ce qu'il dit est quand même très intéressant, et il me semble qu'il est important que tout le monde ait ça en tête, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles on a notre programme éco-responsable sur juillet qui arrive. C'est que on va avoir de la réglementation qui va arriver parce que l'Union européenne a identifié la mode comme étant un secteur qui génère du gaz à effet de serre, et que dans la trajectoire de 2030, il faut traiter le sujet de la mode. Et que c'est pas tant les entreprises de mode en tant que telles, leur siège et ou éventuellement leur boutique qui sont génératrices de gaz à effet de serre, que plutôt le scope 3, c'est-à-dire le process de produits et les produits qu'elles font faire, qui eux c'est un process long, parfois lointain, et donc est générateur d'impact sur l'environnement. On ne sait pas, donc si je reviens sur ce que nous prépare l'Union européenne, c'est peut-être que toi, tu as des informations à partager avec nous, on ne sait pas exactement. Mais par exemple, il n'est pas impossible que demain, il y ait un pourcentage minimum de matières recyclées qui soit obligatoire à l'intérieur de tous les textiles qui seront commercialisés au sein de l'Union européenne. Rien que ça, c'est un énorme changement. Évidemment, l'Union européenne dit, et à juste titre, que la fin de vie de tous nos produits textiles peut constituer un réservoir de matières premières plutôt que d'en consommer des neuves. Donc il va y avoir de la recherche, des obligations sur la fin de vie des produits pour essayer... Et c'est pas facile de refaire du produit à partir de la fin de vie des précédents. Donc ça, je pense que ce sont deux gros sujets majeurs qui sont sur la table, sur lesquels, évidemment, les choses vont se faire certainement de manière progressive, mais ça arrive, et c'est important de prévenir notre communauté pour qu'elle se prépare à tout ça.
Alors justement, vous prévenez la communauté et vous préparez aussi à ce changement. En juillet, il y a beaucoup de renouveau dans le cadre d'un programme qui s'appelle Better Way sur Première Vision Paris. Déjà, ma première question, c'est de qui émane cette réflexion et cette demande ? Est-ce que c'est en interne ? Est-ce que ce sont les exposants ? Est-ce que ce sont les visiteurs ? Qu'est-ce qui a impulsé ce changement ?
Alors tu sais que depuis 2015, On a un projet qui s'appelle la Smart Création, qui a commencé par des talks, par des prises de parole sur le sujet de l'éco-responsabilité, qui progressivement s'est enrichi avec une offre, avec c'est-à-dire des entreprises qui venaient sur le salon et qui traitaient ce sujet. Et évidemment, l'éco-responsabilité est un thème qui n'a cessé de monter au sein de la profession depuis des années et des années. Donc nous, on est en permanence en contact avec nos exposants, avec des acheteurs, et on est en échange avec le constat qu'on a fait de la situation, c'est qu'il y a un peu deux, je schématise, hein, mais il y a un peu deux types d'entreprises. C'est-à-dire qu'il y a les grandes marques de mode qui sont déjà structurées, qui ont un CSR directeur, qui ont éventuellement même des équipes d'ingénieurs, qui travaillent sur ce sujet-là, qui sont en conscience, qui font monter en compétence leurs équipes, qui travaillent la prise de conscience au sein de l'entreprise, dans les équipes de développement produit, etc. Puis à côté, il y a des entreprises plutôt plus petites dans lesquelles il n'y a pas ce type de ressources-là, dans lesquelles les équipes ne sont pas forcément très formées sur ce sujet-là, mais qui ont conscience que ce sujet est un sujet important et que ça va avoir des impacts et qu'il faut travailler autrement leur développement produit. Donc c'est plutôt pour eux, en fait, qu'on a développé ce programme-là. Puisque les premiers, ils savent se débrouiller. Pour les seconds, qui sont très nombreux, on essaie, avec A Better Way, d'amener des outils de visite du salon un petit peu différents que ceux qu'on a toujours proposés. Historiquement, l'outil de visite du salon, c'est la tendance. Donc, on vient pour rechercher des produits, on va sur les forums de tendance, on trouve des matières premières extraordinaires, on va voir un tisseur, on a ces listes de fournisseurs. Aujourd'hui, les marques de mode, elles veulent venir sur le salon avec un angle croisé, si je puis dire, entre la tendance de mode et l'éco-responsabilité. Et l'idée avec A Better Way, qui arrivera donc sur le salon de juillet, c'est de leur amener ces outils complémentaires-là pour visiter le salon un petit peu autrement que ce qu'elles avaient l'habitude de faire. Donc pour ça, on s'est fait aider, parce que y a beaucoup de compétences au sein de l'équipe de Première Vision, mais tu sais comme moi que c'est un sujet très compliqué, très large. Donc on s'est fait aider par des experts. En l'occurrence, c'est Sylvie Bénard, qui est la présidente de Paris Good Fashion, dans lequel nous sommes et donc, que j'ai rencontré comme ça, qui a un cabinet et travaille avec un cabinet spécialisé et qui nous ont aidés à construire des outils et une approche qui permettent donc d'aider les acheteurs à visiter le salon avec cet angle éco-responsable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a identifié les labels et les certifications qu'on a estimés être les plus solides, les plus internationales. Il y en a 13. Deuxièmement, on a identifié 5 critères. Alors, il y a un critère, c'est le social, il y a un critère, c'est l'environnemental. L'environnemental dans la production, la composition du produit, la fin de vie. On a 5 critères comme ça. Sur chacun de ces critères, en fait, sont liés bien sûr des certifications ou des labels qui existent et un petit questionnaire qu'on envoie à nos exposants. Et en fonction des réponses qu'ils nous donnent, on va avoir des parcours qui vont pouvoir être construits. Et vraiment, l'idée derrière tout ça, c'est de démarrer assez léger. C'est-à-dire que c'est un programme qui est facultatif. Tous les exposants ne sont pas obligés d'y participer. On essaie de ne pas trop demander de travail à nos exposants parce qu'ils ont déjà un travail énorme qui leur est demandé par les marques de mode, hein, les cahiers des charges à répondre, les audits à instruire, etc. Donc on s'appuie beaucoup sur des choses qu'ils ont déjà.
Tu veux dire, pour bien comprendre, mais dans le cadre de certifications antérieures, c'est-à-dire que ils en apportent la démonstration chez vous, mais ils ne renouvellent pas les audits et les process.
C'est ça, okay. Exactement. Ils sont certifiés GOTS et ils nous le signifient.
Déclaration et preuve, quoi, en gros.
Exactement. Okay. Voilà. Et on vient compléter, on va dire ça, par un certain nombre de questions qui nous montrent. Pour illustrer ou montrer les démarches positives en fait qu'ils opèrent. Et il ne s'agit pas du tout dans cette démarche-là de pointer du doigt l'un ou l'autre, mais plutôt de valoriser toutes les initiatives positives, et il y en a beaucoup qui sont faites par nos industriels. Et donc on aura comme ça sur le salon un guide de visite qui va s'appuyer sur nos cinq piliers, sur les labels et les certifications que nous avons retenues, et qui permettront aux acheteurs de voir et de découvrir des nouveaux fournisseurs.
Est-ce que aujourd'hui vous savez quel déjà, est-ce que cette proposition donc d'être labellisée ou flaguée, en tout cas avec ces critères rendus visibles, a été faite à tous vos exposants? Et si oui, quel est le pourcentage d'exposants qui vous ont répondu et le pourcentage d'exposants qui ont été retenus, donc in fine, le pourcentage de l'offre considérée comme étant éco-responsable ou en marche?
Alors, on est en cours. Donc je peux pas te donner des chiffres définitifs, mais je vais quand même t'en donner quelques-uns. Il y a un peu moins de 800 entreprises qui sont dans le programme. Et tous les métiers ne sont pas concernés. C'est-à-dire que c'est quand même un gros boulot. Donc on a commencé par les filateurs, les tisseurs et les tanneurs. Donc ça représente à peu près 800 entreprises, un peu moins de 800 entreprises sur le salon. À date, on a 250 entreprises qui ont décidé de jouer, c'est-à-dire qui ont répondu au questionnaire. C'est pas fini, on en continue en enregistrer. Et donc toutes, elles ont entre 1 et 5 piliers, quoi, entre 1 et 5 critères obtenus. Donc moi, je trouve que c'est très encourageant. C'est la première fois qu'on fait ça. Je rappelle que c'est facultatif de participer. Mais on voit bien que les entreprises, elles font des choses et elles veulent le dire, elles veulent communiquer dessus parce qu'elles savent que c'est important pour le marché. Et nous voilons pas la face. C'est aussi un très bien en termes de business.
Bien sûr.
Donc moi je trouve que c'est positif. D'une manière générale, de toute façon, on est sur un process qui va s'améliorer. Nous-mêmes, notre questionnaire, on est donc sur la V0 du questionnaire. Il ne s'agit surtout pas de créer un nouveau label. Les labels, ils existent déjà et ils sont très bien et ils sont très solides, tous ceux qu'on a retenus, donc on s'appuie sur eux. Donc ça coûte pas à l'entreprise, si ce n'est un petit peu de temps pour répondre à notre questionnaire. On va auditer, nous vérifier, environ 10% de nos exposants qui ont répondu pour s'assurer que l'information qui nous a été transmise, elle est juste, parce que c'est du déclaratif. Et puis ensuite, sur le salon de février 2024, on va onboarder les autres métiers, faire évoluer le questionnaire, écouter donc à la fois nos exposants et nos acheteurs sur cette première initiative de juillet, voir les bénéfices, les avantages, les limites, pour ensuite progressivement améliorer. Est-ce que c'est peut-être durcir ou peut-être assouplir le questionnaire. Donc on fera le bilan à l'issue du salon de juillet.
C'est marrant parce que tu as... Il y a eu des pincettes fictives au moment où tu as dit « ne nous voilons pas la face, c'est aussi porteur de business », mais je pense qu'au contraire, c'est un super argument et que c'est comme ça aussi qu'on va faire venir les plus réticents à la cause. Et que bien souvent, c'est mal vu d'associer des considérations écologiques à des considérations économiques, mais que y a une réalité, c'est qu'il faut vivre et manger et faire manger ses employés, et que au contraire c'est une jolie je trouve une jolie façon d'envisager et de créer de nouveaux imaginaires autour de business qui sont durables aussi.
Alors tu as raison, non, c'était pas un lapsus, mais je ne sais pas s'il fallait le dire à ce moment-là. Puisque ça, je le dis de manière vraiment tout à fait transparente. Alors ça fait longtemps que je suis chez Première Vision, je l'ai dit au début, hein, depuis 2004. J'ai vu sur une longue période l'industrie textile et l'industrie de la mode, et que j'ai vu la délocalisation s'opérer. Là, aujourd'hui, il y a une vraie opportunité qui est faite pour les industriels de reprendre le cap, de reprendre des positions, parce que la transformation éco-responsable, qui a pour corollaire une supply chain plus courte, une meilleure maîtrise des process industriels, probablement aussi plus d'internalisation, tout ça est favorable, je dirais, aux entreprises qui sont chez nous, de la communauté Première Vision, je ne sais pas comment il faut le dire, voilà. Et donc, il y a une vraie opportunité pour elles, et moi, j'en suis ravi, après avoir vu toutes les difficultés qu'ont rencontrées les entreprises toutes ces années.
Alors, est-ce que, justement, tu t'as parlé de... comment dire, de nouvelles signalétiques, de nouveaux moyens de visibiliser les actions de ces entreprises. Tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont ça va concrètement s'organiser, à la fois la réorganisation des espaces, et je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que tu parlais de Smart comme entité, Smart Création, une entité à part, et aujourd'hui j'ai l'impression que ça diffuse et ça infuse un petit peu partout dans le salon. Donc oui, en termes de signalétique et en termes de parcours, à quoi ça ressemble l'édition de juillet ?
Sur juillet, il y a une réimplantation un peu large qui s'opère. On revient sur quatre halls, comme avant Covid, et en particulier, à signaler, c'est que les tanneurs qui étaient dans le hall 6 reprennent un hall dédié dans le hall 3, que les filateurs qui étaient dans le hall 5 passent dans le hall 6, où ils seront en proximité avec le nouveau Smart Création. On va l'appeler comme ça. Donc Smart Création quitte le hall 4, pardon, c'est...
Non, pas tout
à fait. Et va s'installer dans le hall 6, dans un nouvel espace qu'on a appelé le PV Hub, qui va reprendre l'offre de Smart Création, mais qui va l'amplifier et qui surtout va mettre au cœur du hall 6 ce sujet-là. Donc Yarns sera juste à côté, parce que on sait que dans l'éco-responsabilité, la matière première, elle est absolument majeure. C'est-à-dire qu'est-ce que je mets dans mon tissu, voilà. Donc et ça se passe au niveau de Première Vision Yarns. Donc c'est important que Yarns, notamment les producteurs de fibres, les filateurs, soient à proximité du nouvel espace du hub. Donc dans le hub, on va retrouver l'offre de Smart Création. On va retrouver une très belle agora flambant neuve pour les talks. Donc, qui seront les prises de parole avec soit des masterclass, soit des tables rondes autour des différents sujets qui animeront le salon. Bien sûr, des sujets éco-responsabilité, mais aussi des sujets de tendance, de mode, d'innovation, etc.
Et il y a une zone de pitch aussi, je fais un petit crochet.
Il y aura une petite zone de pitch, donc nouvelle zone, qui va permettre notamment à des exposants ou sur des sujets plus étroits, puisque ça sera un peu plus petit, d'avoir des prises de contact, des prises de parole, pardon, et d'échanges sur cet espace-là. Et le hub va se positionner à la fin du nouveau forum que nous créons dans le hall 6, qui s'appelle Sourcing Solutions, et qui est un très gros forum qui va démarrer à l'entrée du hall 6 et qui va remonter tout le hall jusqu'au hub, et qui va décrypter la saison par thématique de mode, par débouché produit, et qui va infuser à l'intérieur de tout le forum des propos autour de l'éco-responsabilité. en finissant par une zone dans laquelle on aura plus spécifiquement des sélections produits autour de ce sujet sustainability et innovation. Dans le hall 5, on aura un nouveau forum qui sera dédié à vraiment un forum très immersif et un forum très inspirationnel dans lequel ça va être le choix de première vision. C'est-à-dire qu'on a souvent entendu les acheteurs nous dire « Oui, mais... »
C'est quoi la tendance ?
C'est quoi le mieux ? qu'est-ce qui est le plus juste en ce moment ? Qu'est-ce qui est le plus nouveau en ce moment ? Et que parfois, c'est difficile de le retrouver dans la masse de nos espaces. Donc, on a décidé d'avoir le forum le plus inspirant et le plus pointu dans le hall 5. Et puis, dans le hall 4, on va retrouver un forum dédié aux composants et accessoires. Dans le hall 3, le forum du cuir, donc très premium. Et au nord du hall 5, un espace de tendance pour les studios de Première Vision Designs. Voilà le dispositif général. Ensuite, le A Better Way, PVE A Better Way, comment on va le trouver ? Ce qu'on a acté d'ores et déjà, c'est qu'il y aura un petit picto qui sera A Better Way, qui sera sur l'enseigne du stand de chacun des exposants qui aura participé au programme, qu'il ait 1, 2, 3, 4 ou 5 critères, hein, c'est pas... Mais il participe au programme, il fait des efforts, il a des initiatives, donc il y aura un picto sur son enseigne. Il y aura ensuite un document, et en ligne bien sûr, mais aussi un document papier qui sera une sorte de plan guide éco-responsable dans lequel on va retrouver la liste des entreprises, on va expliciter tous les critères, tous les labels qui ont été retenus et comme ça, ce sera un guide de visite spécifique pour les acheteurs.
Et donc ça, on est d'accord que Better Way, ce sera dans n'importe lequel des halls pour n'importe quel type d'exposant au final
Alors ce seront... donc il y a 3 métiers seulement qui sont concernés par A Better Way. Le premier... Les fils, les fibres, les tissus et le cuir.
Absolument, ok. Et donc, j'allais te demander comment préparer au mieux sa venue, mais tu l'as dit, donc avec ce petit guidebook qui sera aussi disponible en digital.
Ouais.
Et je crois que vous proposez donc un accompagnement sous forme de visite guidée aussi, de visite un peu particulière auquel on peut s'inscrire.
Voilà, on a tout un tas de dispositifs pour accompagner la visite de nos acheteurs. Donc des accueils spécifiques sur le salon, mais aussi en effet, comme tu faisais référence, des visites guidées des forums. Voilà, il faut s'inscrire simplement avant, puisque nombre de places est limité. On le fait en français, en anglais, en japonais, en coréen, peut-être en italien aussi.
Parmi les solutions qui s'offrent aux marques pour un sourcing de matières éco-responsables, l'upcycling est un sujet montant depuis quelques années. Donc le fait de réemployer des stocks dormants avec tout ce que ça peut comporter de définition. Et c'est un positionnement, c'est une offre que PV jusqu'ici n'avait pas hébergée. Parmi les nouveautés arrivant en juillet, il y a cette offre-là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui motive ce choix d'accueillir ces fournisseurs et s'ils rentrent dans les critères Better Way, comment est-ce que vous avez fait pour les labelliser parce que ça fait partie des gros points de difficulté, par exemple, de la méthodologie PEF, de savoir comment intégrer ces acteurs.
Alors, ils ne font pas partie de Better Way. Pour l'édition de juillet, en effet. On est ravis d'accueillir deux acteurs sur le salon de juillet, hein, qui sont Nonasource et Adapta, et qui vont venir présenter leur stock dormant. On aura aussi d'ailleurs dans cet espace-là l'offre, dans une version digitale, de nos exposants. Certains de nos exposants, tous nos exposants ont des stocks dormants. Mm-hmm. Mais tous n'en font pas communication,
ouais,
ou ne le montrent pas de manière ouverte. Historiquement, les stocks dormants sont rachetés par des grossistes, par des soldeurs, et etc. Évidemment, les industriels préfèrent vendre des produits nouveaux à leurs clients. Si on a cette offre sur le salon, c'est parce que, évidemment, tu le disais, elle a une dimension éco-responsable, mais je dirais au-delà de ça, c'est une vraie solution pour les jeunes marques, en particulier pour elles.
Oui.
Bien sûr, d'autres peuvent intégrer plus gros, peuvent intégrer du stock dormant dans leur offre et le font, et c'est très bien. Mais pour les jeunes créateurs qui souvent cherchent des matières, mais n'ont pas les minimums auxquels je faisais référence, les minimums industriels qui sont nécessaires pour passer une commande, là, ils ont une solution. Et donc, c'est une vraie nouvelle offre. Qu'on inaugure sur le salon en juillet. Je dirais qu'il était temps, mais je suis ravi qu'elle soit là.
Très bien. Et parmi les nouveaux services, alors là, c'est une offre qui s'enrichit, mais qui était déjà présente sur les éditions précédentes. Il y a également les services que tu as mentionnés. Donc, par exemple, l'intelligence artificielle qui permet de détecter les tendances, la digitalisation des matières en 3D, la production à la demande, etc. Donc ça, on est d'accord que ce sera dans la partie, enfin, au contact du hub.
Ouais.
Et est-ce que tu penses que justement, Première Vision a un rôle à jouer en tant que peut-être prescripteur de solutions, pas de tendance cette fois-ci, mais vers de nouveaux modèles économiques et leur accompagnement?
Nous, on, évidemment, il faut que notre filière, elle accompagne les transformations technologiques qui sont en cours. Ce qui est un point important d'un salon, c'est de rassembler sa communauté et de lui montrer ce qui se passe, de lui permettre d'entrer en contact avec des gens qui innovent et ensuite de s'emparer de ces innovations pour créer éventuellement des nouveaux modèles économiques, travailler autrement, etc. Donc ça, c'est tout le propos que tu décris, et c'est une offre qu'on souhaite pouvoir évidemment enrichir au fur et à mesure qu'il y aura de l'innovation qui arrivera et qui sera au service de la filière. Alors, c'est des sujets, en plus, c'est très varié, parce que, comme tu disais, c'est formidable. À la fois, on est dans le développement produit, on est sur la blockchain pour la traçabilité, on est sur le virtuel ou créer des vêtements de manière virtuelle. Donc, tout ça, il faut qu'on le présente pour montrer l'innovation qui existe dans notre secteur.
Alors, le reste de l'année, en dehors des deux temps forts de Première Vision Paris, est-ce qu'il y a une mise à disposition de l'offre? On n'a pas parlé de votre conversion digitale, parce que pour moi, c'est un non-sujet. Vous l'avez bien réussi, et de toute façon, ça fait partie de l'évolution des salons aussi aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut retrouver, et quels sont les outils, les dispositifs mis à disposition par PV en digital?
Alors, tout au long de l'année, on essaie de donner des informations sur notre plateforme. Alors, ce qu'on produit, ce sont des contenus, hein, donc nos podcasts, notre contenu mode essentiellement, est disponible et accessible tout au long de l'année. Et on essaie donc de nourrir notre communauté en information pour l'aider à rechercher des matières, à avoir des outils pour travailler. Donc ça se passe en effet essentiellement sur le digital. C'est souvent ponctué aussi par nos opérations physiques. C'est-à-dire que là, on a le salon de Nîmes Première Vision qui va se tenir à Berlin la semaine prochaine. Et donc, en effet, on a des gros focus autour du de Nîmes, de l'innovation dans le de Nîmes, de l'information produite dans le de Nîmes, etc. Donc, ça se passe sur le site internet de Première Vision, souvent, dans les rubriques de magazines où il y a toutes les informations. Ça se passe aussi sur la marketplace. La marketplace, c'est une vraie marketplace de produits dans lequel l'équipe mode de Première Vision fait de la curation produit, fait du storytelling tout au long de l'année, et permet à des acheteurs de retrouver selon des thèmes de saison ou tout simplement avec des filtres de recherche particuliers des fournisseurs, des produits, etc. Et ça, c'est accessible 365 jours par an.
Très bien. Ça, c'est important de le noter, en effet, parce que c'est moins ce pour quoi on vous connaît, mais il y a une vraie... l'offre s'est vachement enrichie sur le digital, et aujourd'hui, les outils sont disponible et performant. Donc j'invite tout le monde, à, notamment les personnes qui ne peuvent pas se déplacer sur le salon, jeter un œil au site. Alors, on a parlé de ce que contenait l'écran Première Vision, mais on n'a pas parlé de la constitution de l'événement en soi, l'événement physique. On sait que l'empreinte carbone événementielle n'est pas négligeable et qu'une des meilleures manières d'influencer, c'est l'exemplarité. Est-ce que vous pouvez nous parler de, justement, l'organisation vraiment concrète d'un événement international en 2023 qui accueille des milliers de personnes avec un prisme le plus éco-responsable possible?
Je suis content que tu me poses cette question, Victoire, parce que c'est un sujet sur lequel on communique très très peu. Et comme tu peux le voir, je suis venu avec mon petit tableau et avec quelques chiffres. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est très sensible à ce sujet que tu évoques, c'est-à-dire en quoi un événement a un impact environnemental et comment est-ce qu'on le réduit. Et donc j'ai des équipes qui travaillent dessus depuis des années et qui font des choses qui ont beaucoup d'initiatives sur lesquelles on communique très très peu. Évidemment, un salon, c'est une ville. Nous, on construit une ville qui va accueillir, on va dire, une population de 50 à 60 000 personnes. On la construit et puis on la démonte. Et donc évidemment ça a des impacts parce que on va consommer de l'énergie, on va utiliser des matériaux et puis on va devoir jeter. Mais c'est vrai que du coup nous on doit travailler ce sujet-là et on doit et en particulier je dirais que Première Vision est particulièrement bon. Alors pardon, là je vais faire de l'auto
l'auto-promo, mais on est là pour ça.
Mais c'est, pourquoi
c'est
parce
moi
que
le juge de paix. Vas-y.
Voilà, tu me diras à la fin. C'est que, normalement un organisateur de salon, il baigne et il détruit la plupart des choses qu'il construit pour son salon. Nous, on a cette caractéristique dont je ne suis pas à l'origine, puisque ça a toujours été comme ça chez Première Vision, c'est que nous fournissons un stand à nos exposants. Donc le stand que nous fournissons, il n'est pas détruit, il est démonté, il est nettoyé, il est bien rangé, et il est rangé en l'occurrence à 8 km de Villepinte. Et il revient et il est réinstallé 6 mois après. Donc déjà, ça veut dire que nous, on jette, par rapport à un autre organisateur de salon, très 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 peu. Mmh. Donc où est-ce qu'on retrouve du déchet? Alors, ou de la consommation énergétique? Alors on a de la consommation énergétique, donc pour la réduire, tout est en LED dorénavant, tous nos éclairages, que ce soit les éclairages de hall ou les éclairages de stand, tout est en LED. Donc on essaie de réduire nos déchets. Pour réduire un déchet, la meilleure manière, c'est de pas fabriquer. Voilà. Donc déjà, on essaie de fabriquer moins, de fabriquer plus juste. Et ce qu'on fabrique, on essaie de faire en sorte qu'il soit recyclable. Aujourd'hui, on a enfin... on est à peu près bon là-dessus, puisque la moquette est 100% recyclée. Donc, ça devient des petits granules qui vont ensuite dans une filière industrielle métallurgique. Les bardages des murs qui sont en tissu vont, eux, sont recyclés et deviennent de l'isolant. Les déchets on trie les déchets en fait avant de les mettre en benne et on les recycle sur la période et là je vais regarder mon petit papier de 2018 à 2022 on a réduit de 30% le volume de tonnes. Alors nous on le compte par 1000 mètres carrés. Et ça a été un effort d'organisation, de trouver des filières pour gérer les déchets, etc., etc. Donc le point qui restait souvent le plus difficile pour nous à traiter, ce sont les forums de tendance, parce qu'ils sont différents à chaque fois. Donc là maintenant, depuis plusieurs années, on travaille dès le moment de la conception du forum avec nos scénographes et avec nos constructeurs pour orienter les matériaux qui sont utilisés dans la construction des forums. On travaille aussi avec des entreprises qui font de la récupération et qui peuvent récupérer des éléments scénographiques de forums et de telle sorte à jeter le moins possible. Si tu es venu sur le salon de février, peut-être que tu as vu ce grand forum qui était juste à côté de l'espace Smart Création, qui était formé de grands coussins et avec des verticales de 10 mètres, tout en bois, etc. Ce forum, il a été recyclé à 100%. Les coussins, en fait, ce sont des coussins gonflables qui sont utilisés dans le transport de grosses marchandises. Donc on les a rendus. Si je puis dire, on les a achetés, mais on les a donnés ensuite, derrière, pour qu'ils soient utilisés pour ce pour quoi ils ont été faits. Et le bois, il a été récupéré par une entreprise qui fait de l'upcycling. Il a été taillé sur place, en plus petits morceaux, mis en camion et allé directement sur des lieux où il va être transformé pour servir dans l'habitat. En l'occurrence pour faire des meubles dans des habitats pour défavorisés, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on essaie de travailler. Un des autres forums du salon, celui qui était situé dans le hall 6, on a décidé, on avait anticipé bien sûr, mais on avait décidé de récupérer tout de suite une partie de le construire de telle sorte à pouvoir le démonter, récupérer une partie des structures et les réutiliser sur le salon suivant, donc celui de juillet. Personne ne le verra parce que la façon dont on l'a fait qu'on va avoir l'impression vraiment d'avoir un nouveau dispositif de présentation. Pour autant, la moitié des structures ont déjà été utilisées une fois. Donc c'est tous ces éléments-là, c'est la façon dont on travaille et aussi évidemment les changements des cultures au sein des équipes qui permet d'améliorer notre impact en tant qu'événement. Bien sûr, tu vas me dire que j'ai lu de le plus important, c'est l'avion des gens qui viennent. En effet. Mais moi, je te renvoie cette question. La question, en fait, n'est pas de savoir quel est l'impact carbone du déplacement de l'ensemble des populations qui viennent sur Première Vision, que plutôt le mettre en regard de quel serait l'impact carbone s'il n'y avait pas Première Vision. Quel serait l'impact carbone si l'ensemble des exposants de Première Vision devaient faire en transport la visite des clients qui rencontrent. Donc, un exposant de Première Vision, il reçoit, on va dire, entre 50 et 1000 clients sur les 3 jours. Donc, si tu transformes ça en voyage qui serait par l'exposant, en réalité, de manière individuelle, bien sûr, en réalité, c'est là qu'il faudrait faire la comparatif. On est dans un secteur dans lequel il faut que les gens se rencontrent parce que le produit, on a besoin de le voir, on a besoin d'avoir un échange et donc il nécessite la rencontre entre les gens.
Absolument, et je dirais même que vous avez un autre argument, c'est celui de mettre en avant des solutions vertueuses et donc d'aider ces entreprises à produire unitairement des vêtements qui sont moins polluants et donc finalement d'accompagner cette transformation et d'accompagner la réduction globale de l'empreinte carbone.
Bien sûr, et puis il y a les nouvelles pratiques qui sont liées aux nouveaux outils qui arrivent, c'est-à-dire qu'en effet, réduire le prototypage parce qu'on fait des prototypes virtuels sur lesquels on peut avoir un textile et aussi un vêtement, ça réduit la circulation des coupe-types qui sont nécessaires pour pouvoir prototyper, etc. Et donc, il y a plein de manières, évidemment, de réduire l'impact du process de développement produit sur l'environnement.
Et je renvoie les personnes qui nous écoutent à l'épisode qu'on a fait avec Paul Émilieux, qui est un architecte qui est spécialisé justement dans le réemploi en boucle ouverte et fermée des matériaux, en particulier des espaces et des espaces événementiels, qui était assez passionnant. Je vais passer la parole à Coraline pour les questions d'ouverture.
Alors, Avec toutes ces innovations dont vous nous avez parlé, est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a plu, que ce soit matière, service, à partager, un coup de cœur?
Alors, mon coup de cœur, c'est l'histoire que m'a racontée Supima. Donc, Supima, pour ceux... Je permet de rappeler qui est Supima. Supima est, est une organisation américaine qui valorise le coton Pima, c'est-à-dire c'est des cotons fibres longues. Évidemment, c'est un coton haut de gamme, etc. Et Supima a une initiative qui consiste à utiliser la technologie pour avoir une traçabilité complète depuis le champ de coton jusqu'aux produits transformés. Donc, elle s'appuie sur une technologie qui est à la fois celle de Textile Genesis et celle de Retain. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est souvent, malheureusement, le coton peut être une filière un petit peu opaque. Et que cette démarche est une démarche extrêmement transparente, puisque on sait dans quel champ sont cultivés et cultiver le coton, parce qu'il a une caractéristique physiologique particulière. Et ensuite, par la blockchain de Textile Genesis, on suit la transformation du process du coton qui est mélangé, qui devient un fil, qui devient un t-shirt et qui est commercialisé. Et que je trouve que cette histoire, elle est vraiment intéressante sur la recherche et sur les, sur on va dire les bonnes pratiques vers lesquelles on doit aller.
Est-ce que vous avez un site, un livre ou autre référence culturelle pour se cultiver sur le sourcing, les matières, etc.?
Alors, moi, je vous recommande pas ça, mais je recommande à ceux qui nous écoutent d'aller écouter le podcast du directeur général de Ratex. Donc, ce podcast est disponible sur le site de Première Vision, dans la section médias, et il nous explique ce qui arrive devant nous. Je pense que c'est une des choses les plus importantes qui doit être comprise, c'est-à-dire quelles sont les intentions de l'Union européenne vis-à-vis de la mode en termes d'éco-responsabilité. Voilà, et pour que nous, pour que l'ensemble de la filière soit prête et ou se prépare aux changements qui sont devant nous.
Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre sur notre podcast?
Alors, je vous propose deux personnes, mais après, c'est vous qui faites, évidemment, hein, tout ça. Donc, vous pouvez, si vous voulez, aller, si on veut aller plus loin sur le textile, interroger Marco Mantelassi, qui est le président, le propriétaire de Manteco, hein, qui est une société lainière de Prato et qui fait de la laine régénérée essentiellement, mais avec un niveau de gamme et de création qui est juste formidable et une approche vraiment formidable. Il est très intéressant de l'écouter. Alternativement, si vous voulez, si on veut aller plus loin sur la jeune création jeune création et matière, etc. Évidemment, je pourrais que recommander de faire un podcast avec Boris Provost, qui est le directeur général de Tranoï.
Est-ce qu'il y a une rencontre qui a marqué votre vie professionnelle?
Bah, moi, ma vie professionnelle a été largement marquée par la rencontre avec Philippe Pasquet, qui a pris la présidence de Première Vision, et qui, voilà, dans la m'a fait confiance et m'a donné des responsabilités et m'a permis de vivre presque 20 ans au sein de cette entreprise et de connaître beaucoup de transformations.
Et selon vous, jusqu'où vont ces transformations? Par exemple, à quoi va ressembler Première Vision dans 10 ans?
Alors, moi, je pense que Première Vision dans 10 ans ne sera pas si différent qu'il est aujourd'hui, en fait. peut-être que le rôle du digital aura changé, et je l'espère, parce que je pense que c'est important que la filière s'empare, enfin la filière, l'amont s'empare du digital, parce qu'il y a, il y a beaucoup de bonnes choses à en faire. Ce que je pense, en revanche, c'est que le profil des entreprises qui seront sur Première Vision et la façon dont ils contractent ou la façon dont ils travaillent les collections, à la fois dans l'offre et chez les exposants, ça aura changé. Voilà. Et évidemment, je suis convaincu que la transformation éco-responsable va être en ordre de marche et qu'on n'aura pas tout à fait le même profil d'entreprise qui exposeront sur le salon. Oui.
Et pour terminer, est-ce que vous auriez un conseil pour les jeunes marques ? Est-ce que vous pensez que c'est intéressant qu'elles viennent se rendre directement sur Première Vision et quels sont les meilleurs conseils pour démarrer ?
Alors, bien sûr, il faut venir sur Première Vision. Je comprends que c'est pas toujours facile parce que les stands sont fermés, parce que c'est grand. Ça peut être intimidant pour ceux qui viennent. Donc probablement pour les jeunes professionnels, il y a une phase d'acclimatation et il y a une montée en compréhension de Première Vision. Mais à un moment où la matière est au cœur du sujet de la mode, aller à Première Vision, c'est mieux comprendre ce qui se passe, mieux échanger avec les acteurs sur ce qu'ils font. Donc oui, je recommande de le faire. Moi, je recommande toujours à ceux qui viennent à Première Vision au début de préparer leur visite, de prendre des listes, c'est-à-dire de regarder sur le site internet le type de produits qu'ils recherchent pour commencer à construire des listes, à venir sur le salon, à commencer par aller sur les forums de tendance pour avoir un aiguillage sur les propositions produits, pour rechercher des fournisseurs qui ne sont pas forcément sur la liste initiale. Et puis pour les plus jeunes marques, bah, dorénavant, d'aller sur la zone dead stock, parce qu'elle est vraiment, vraiment pour elle. Il y aura là tout un tas de propositions produits qui vont leur permettre de travailler leur collection, leur première collection, leur deuxième ou leur troisième collection.
Parfait, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de podcast.
On a oublié une information essentielle. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver les informations, pour s'inscrire et pour visiter Première Vision ?
Alors, tout se passe en ligne, donc sur premièrevision.com. On prend son badge, voilà, c'est gratuit de prendre son badge. Il y a tous les outils de préparation de la visite. Il y a les éléments de décryptage produit. Pour ceux qui sont venus, ne peuvent pas venir sur le salon, bah, il y a des éléments d'information et de décryptage qui arrivent après le salon. Pour ceux qui n'ont pas pris assez de temps pour visiter le salon, on peut retrouver par exemple l'ensemble des produits qui sont sur les forums sont sur la marketplace. Donc j'ai vu quelque chose, j'ai pas eu le temps d'aller voir à l'exposant, bah, tiens, je vais le retrouver sur le site internet.
Très bien. Et pour celles et ceux qui seraient un peu frileux à l'idée de l'immersion pour la première fois dans un salon aussi imposant, je conseille d'écouter l'épisode avec Emmanuelle Cardosi, qui est la fondatrice de la marque Cardo, qui venait de tout sauf de la mode et du textile et qui a eu, avec de l'aplomb et de l'affront, la possibilité de monter une magnifique marque de maillot de bain, grâce notamment à un certain culot, une détermination et puis un salon comme Première Vision.
C'est formidable. Merci de m'avoir invité.
Merci beaucoup, Gilles. À bientôt en juillet, alors.
À bientôt.
Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez appris des choses et apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, et de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles, ainsi que de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.